السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. وبعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الحمد لله، الله تعالى nous a permis de nous réunir ce soir en cette nuit du 27e Rajab. Donc ce mois de Rajab qui précède le mois de Sha'ban, qui lui-même est une introduction à Muqaddama pour le mois de Ramadan. Alors dans ce ayat qu'on a cité, ayat qu'on a déjà entendu depuis de nombreuses années, à chaque 27e, on relit le même ayat. Et dans ce ayat du Coran, du 15e Sifara, Allah subhanahu wa ta'ala, en ce sens, explique comment il a amené sa créature, son serviteur, il a pris son serviteur. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait voyager le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'on appelle Al-Isra wal-Mi'raj, ce voyage nocturne, jusqu'à Baytul Maqdis. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala a emmené le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au ciel, proche du trône d'Allah, afin de lui montrer certains signes. Il y a à peu près 7 siècles de cela, dans la même nuit comme maintenant, en 27e, il s'est produit donc cet événement unique dans l'histoire de l'islam, bien sûr, mais on dirait même plus dans l'histoire de l'humanité. Car c'est la première fois dans l'histoire de la création qu'une créature, Mubarak, la créature du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc un makhlouq, va rencontrer Allah Azza wa Jal de si près. Il n'y a jamais eu dans l'histoire de la création, je ne dis pas dans l'histoire de l'islam ou de l'histoire des adhyans, des religions, mais dans l'histoire de l'humanité, depuis qu'Allah Ta'ala a créé l'univers, il n'y a jamais une créature qui va s'approcher aussi proche d'Allah subhanahu wa ta'ala comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire en cette nuit du 27e Rajab. D'où l'importance de cet événement. Et la nuit nocturne, ce voyage nocturne se compose de deux parties. Il y a ce qu'on appelle Al-Isra et Al-Mi'raj. Deux choses différentes. Mais le tout, c'est le voyage nocturne. Al-Isra, c'est le voyage depuis Makkah al-Mukarrama jusqu'à Bayt al-Maqdis. Et la rencontre avec les Anbiya, alayhi salatu wassalam. Al-Mi'raj, bin ma'na al-Uruj ila sama. C'est lorsque Allah Ta'ala a pris notre prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis Bayt al-Maqdis et l'a amené visiter les cieux jusqu'au trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans chacun de ces deux voyages, quoique le deuxième peut paraître plus impressionnant que le premier, mais dans les deux voyages, il y a des mu'ajizat, il y a des choses exceptionnelles dont c'est important d'en parler. Il faut savoir que le 27e Rajab, contrairement au 27 Ramadan, Laylatul Qadr, ou alors les dernières nuits qu'il y a de Ramadan, hein, ou par exemple le 15 Sha'ban, qui est la nuit du pardon, contrairement à ces nuits, le 27e Rajab n'est pas une grande nuit. Ça faut qu'on comprenne bien ça. Il faut qu'on comprenne bien que le 27e, on a besoin de dire grande nuit de l'arrivée. Non, grande nuit n'est pas arrivée. Grande nuit arrive bientôt. Le 27e Rajab, il y a eu un événement une fois dans l'histoire de l'islam. Et c'est pas à partir de cela qu'on peut dire que c'est une grande nuit. C'est une nuit importante. Car dans cette nuit, Mubarak, le prophète sallam, il est parti vers Allah Azza wa Jal. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu un réconfort psychologique de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala après 10 années de difficultés de tablir au din. Après 10 années où notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a connu beaucoup de difficultés, beaucoup de ta'zim, beaucoup de istihza, de moqueries, de problèmes de la propagation de la religion, après le décès de son oncle, après le décès de son épouse Khadija radiallahu ta'ala anha, Allah Azza wa Jal réconforte notre prophète sallallahu alayhi wa sallam par ce voyage nocturne. Ce voyage nocturne est extrêmement important car c'est dans cette nuit Mubarak qu'Allah Ta'ala a révélé le ibad al-din. C'est quoi le ibad al-din? As-salat. Le pilier de la religion, c'est la salat. D'où l'importance du fait que le mois de Rajab précède Sha'ban et Ramadan, on profite de cette occasion pour faire peut-être riche de ces amal, principalement cette action qui a été révélée durant la nuit du 27e Rajab. Mais il faut que ce soit clair qu'il n'y a pas de rituel. Ce n'est pas un rituel, tous les 27e, on doit se réunir, on doit s'asseoir, on doit écouter Mahana, qui va écouter, la Wallah. Vous me direz, Laylatul Qadr, oui, il faut en parler parce que c'est une nuit tellement importante. C'est la nuit la plus importante dans toute l'année et il faut faire tarif, expliquer les gens l'importance de la nuit du 27e ou 25e ou 23e ou 29e afin que, là, la foutu de l'âge, afin que les gens ne passent pas à travers cette nuit. Le 15e Sha'ban, son importance, c'est dans cet hadith, ils disent que c'est la nuit où Allah pardonne. quasiment tout le monde. Pour expliquer les gens que c'est lui où il y a le Maghfira, donc les gens se révèlent à Hajj, ils font doigt, ils demandent l'Istighfar. Mais le 27e, il n'y a pas de Rosa, il n'y a pas de Qiyam al-Layl spécifique. C'est tant mieux pour lui. Mais il n'y a pas de ribadat spécifique. Mais on tient quand même à parler car ça fait partie de l'histoire de notre religion. Parce que le voyage nocturne, c'est l'événement le plus important de l'âge de Makki. De toute la période Makki, l'événement le plus important et le plus important de la sirah du Prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'histoire de l'humanité, c'est cette rencontre entre le Prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah azza wa jal, comme personne n'a jamais rencontré Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, on part du principe que tout le monde connaît l'histoire du Mi'raj. Donc on n'a pas besoin de raconter en détail. Certaines personnes m'avaient dit que lorsque quelqu'un fait le baïa le 28e, les gens viennent faire le dos, viennent faire leur révision. Ils connaissent, mais ils viennent voir s'il n'y a pas des petits trucs nouveaux, moi, on a apporté. On va voir ça. C'est-à-dire, on va essayer de, en 17 phrases, je me limite à 17 phrases. Si je coupe mon souffle, ce n'est pas une nouvelle phrase. En 17 phrases, on va essayer de résumer le Mi'raj, et on va s'attarder sur 4 phrases. Inch'Allah, 9h24, vous êtes libre. Vous voyez? Quand il y a à l'école, on dit demain à l'école, quand il y a un magasin, demain il y a un magasin, là il y a vacances, quelqu'un m'a dit, pas prendre trop de temps, il fait froid. Et Allah, machin, il fait froid. Voilà. Ah, on a froid, ça y est. Alors, en 17 phrases, Inch'Allah, pour vous libérer à 9h24, hein, et quand l'été, il fait trop chaud, voilà. Et la machin, il fait ça. Ça y est. Pour le dîn, qu'est-ce qu'on est prêt à donner, hein? Enfin, on plaisante, ça y est. En 17 phrases, Inch'Allah, vous savez, le Prophète dit que les meilleures paroles, c'est ma kalla wa dal. Les meilleures paroles, c'est ce qui est concis, mais qui en même temps, qui veut tout dire. Il n'y a pas moins de 2h30, 3h de temps que les gens, ils peuvent plus s'asseoir, ils vont s'asseoir en tailleur, ils vont s'asseoir en comme ça, les gens, ils ne peuvent plus, et il est makrou de quitter un majlis. Lorsqu'il y a un majlis, hein, il écrit là, parce que là, vous êtes assis, puis vous partez. Si je vois quelqu'un partir, je suis vexé. Je vois quelqu'un dormir, je suis vexé, je retiens le nom. Ça y est, hada et ça aussi. Donc, c'est pour cela, pour par ri'ayat, par rahmat, pour tout le monde, Inch'Allah, le 24 va finir. Avec tout ce mokadima, on a déjà pris 2 minutes. Faillite. Comment s'est passé le mi'raj en 17 points? Premier point, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à Jibra'il alayhi salam d'aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette nuit, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dort dans la maison de Hani, radiallahu ta'ala anha. Jibra'il alayhi salam entre dans la maison de Hani par le toit. Et il prend le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il va l'amener vers la Kaaba. Il va l'amener précisément près du Hattin. Et c'est à partir du Hattin qu'aura lieu une fois encore l'opération Nabawi. Jibra'il sallam va enlever les impuretés du cœur du prophète sallam, bien sûr, il va laver le cœur du prophète sallam avec le main au zamzam et il va remplir le cœur, le fond, le sinan de le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec al-hikmah, al-iman, al-hilm, al-ilm, al-yaqin. Plus de yaqin encore. Plus de iman encore, plus de yakin encore, plus de rythme encore et plus de foi. On avait dit, il y a un an exactement, que la Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait besoin de cette opération car il va voir des choses que l'entendement humain ne peut pas accepter. Il va voir des choses qu'un être humain normal ne peut pas voir. On ne peut pas voir un djinn en son aspect normal. On ne peut pas voir un ange son aspect normal. Mais la Prophète sallallahu alayhi wa sallam va voir des choses qu'aucun être humain ne peut pas supporter. Et d'où l'importance de cette opération de la poitrine. Allah Ta'ala va donner la possibilité de voir ces choses. Oui, ça c'est deux phrases. Jibril alayhi salam présente à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam le bura. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam montre le bura et le isra va commencer. Alors, durant ce voyage, avant d'arriver à Baytul Maqdis, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, par ordre de Jibril alayhi salam, va s'arrêter à trois endroits. Va s'arrêter à trois endroits et va faire salat à trois endroits. Cet événement-là, cette anecdote-là, c'est cité par Imam As-Salih al-Shami. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois il s'arrête sans savoir quel est cet endroit, et après Jibril alayhi salam explique que ça c'était tel endroit. Et ces trois endroits sont les symboles des trois religions monothéistes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va s'arrêter à Madinat al-Munawwara, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va s'arrêter près du Tour-e-Sayna, le mont Sinaï, symbole donc de la religion des Hazrat, Moussa alayhi wa sallam, et enfin le prophète sallallahu alayhi wa sallam va s'arrêter à Bethléem, Bethléem, symbole de la religion des Hazrat, Isa alayhi wa sallam. Ensuite, ils prennent le chemin vers Bayt al-Maqdis. Arrivé Bayt al-Maqdis, Jibril alayhi salam attache le bourra, près de la roche, près de cette pierre, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre dans la masjid Aqsa, et là il va voir, les ulama disent dans les hadiths, dans les kitabs, il va voir la totalité des anbiya qui ont été envoyés. Il y a combien d'anbiya qui ont été envoyés environ? 124 000. Est-ce qu'une masjid peut contenir 124 000 personnes à l'époque? Peut-être Haram Sharif a Iman annulé, mais à l'époque, Iman Bilray. S'il écrit dans les hadiths que toutes les anbiya étaient là, on a Iman, même si la salle était petite, si Allah le veut, c'est possible. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire Iman. Il va officier la salat. Et ça prouve quoi? Dans les matraques, qui c'est qui va faire namaz? Amir al-Mu'minin. Ou alors, celui qui a plus de ilm, ou celui qui a le plus de connaissances en Coran. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire imamat, et c'est la preuve de la supériorité de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam sur tous les anbiya alayhi wa sallam. Ensuite, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam va converser avec arwah, le ruh des anbiya alayhi wa sallam, et chaque prophète va expliquer au prophète sallallahu alayhi wa sallam quel niamat Allah azza wa jal l'a accordé. Et là, on va s'attarder sur ce moment précis. 2 minutes. Ibrahim alayhi sallam أجيب وصلى الله الحمد لله الذي اتخذ لي خليلا وأعطاني ملكا عظيما وجعلني أمة قانتا يؤتم بي وأنقذني من النار وجعلها علي بردا وسلاما. En résumé, Ibrahim alayhi salam dit que je remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait de moi son khalil, son bien-aimé. Et chaque ni'mat que ces anbiya alayhi salam wa salam vont citer, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa salam a eu les mêmes ni'mat de sa vie, où il va les avoir dans les 13 années qui arrivent, où le prophète sallam aura autant ou voire plus que ses anbiya, alayhi salatu wassalam, avant même que notre prophète dit qu'est-ce que Allah lui a donné, en comparant les ni'amats que ses anbiya ont vu ou ont eu, on va voir, et on comprend si quelqu'un connaît la salat, que notre prophète a eu autant que ses anbiya, alayhi salatu wassalam. Ibrahim alayhi salam était l'ami intime, le proche d'Allah azza wa jal, mais la proximité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va avoir avec Allah ta'ala dans cette nuit, c'est plus fort que ce qu'Ibrahim alayhi salam a eu avec Allah, quand le prophète va s'approcher du arche d'Allah, ou même Ibrahim alayhi salam ne s'est jamais approché. Ibrahim alayhi salam, il remercie Allah de l'a protégé du feu. Lorsque les gens voulaient tuer Ibrahim alayhi salam, toutes les conditions étaient réunies pour qu'il meure d'une souffrance atroce, mais Allah l'a protégé. Et dans la vie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, en combien de reprises les conditions étaient réunies pour que les mouchriquins tuent notre prophète alayhi salatu wa sallam, et Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a protégé Ibrahim alayhi salam, notre prophète Allah azza wa jal a protégé notre prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque notre prophète devait quitter sa maison à Makkah pour le hijra, il y a les mouchriquins qui sont autour de sa maison. Il sort de sa maison et il dit « وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ يَدِهِمْ سَدَّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّا » La akhir al-ayah, il envoie une poignée de terre et Allah Azza wa Jalla aveugle ces gens. Le prophète passe devant eux alors qu'ils ont leur sabre en main, prêt à tuer le prophète dès qu'il sort. Et Allah Ta'ala protège le prophète et il peut quitter sa maison, quitter Makkah. Allah Ta'ala protège son prophète comme il a protégé Ibrahim alayhi salam. Dans une histoire, le prophète est parti voir une personne, une tribu particulière à Madina, il y avait quelqu'un qui était à l'arrière sur un mur, il avait une pierre, il voulait jeter sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah ta'ala lui a dit de son cœur, fais attention, il y a quelqu'un qui te veut du mal. Le prophète s'est levé et s'est parti. Deuxième cas, Allah ta'ala, il protège la vie de son Nabi Karim, Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Une fois, au retour d'une campagne, notre prophète et les sahaba sont en train de s'allonger sous des arbres. Notre prophète a mis son épée bandillée sur une branche. Et il y a un monarque qui vient, qui prend cette épée, qui le tend, qui dit « Oh, oh Mohammed, qui te protège contre moi? Je vais te tuer. » Maintenant, qui te protège? Il a dit « C'est Allah. » Il a dit « Oh Mohammed, qui te protège? Il y a l'épée, tu es là, il n'y a personne pour te défendre. » Il a dit « C'est Allah. » Son iman n'a fini. Troisième fois, « Oh Mohammed, qui te protège? » C'est Allah. Et Allah a fait que l'épée tombe de sa main. Et notre prophète, il prend l'épée et dit « Maintenant, qui te protège? » Allah Ta'ala a protégé un prophète dans mille et un cas de figure où la vie de notre prophète alayhi salatu wassalam était en danger, Allah l'a protégé, alors que pour Ibrahim alayhi salam, ça n'est arrivé qu'une fois. Voyez, on va continuer en français pour aller plus vite. Le prophète salam, maintenant il converse avec Moussa alayhi salam, et Moussa alayhi salam, il est content de dire au prophète salam que Allah ta'ala m'a parlé. Kalimullah Moussa alayhi salam, alladhi kallamani, il dit le hadith. Et comme Allah ta'ala va parler au prophète salam, jamais Allah ta'ala n'a parlé à Moussa alayhi salam. La proximité que notre prophète va avoir avec Allah, même Moussa alayhi salam n'a pas eu le même type de conversation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Moussa alayhi salam dit que je remercie Allah qui a détruit mon pire ennemi. Halaka Fir'aun ala yadi. Il a détruit Fir'aun. Et Allah azza wa jal a également détruit le pire ennemi de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Jahl. Et donc pas par une mère qui se ferme sur cette personne comme c'était le cas de Fir'aun, mais par 2 ans. La bataille de Badr, Allah Ta'ala, il ordonne à 2 enfants de finir avec Abu Jahl, celui qui voulait porter atteinte à la vie du prophète sallam. Et certains de ses ennemis, Allah ne les a pas détruits, mais Allah a changé leur cœur, à laquelle ils ont donné hidayah, comme Abu Sufyan, qui embrasse l'islam avant la conquête de Mecca. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam converse avec Daoud alayhi salam, et parmi les choses que Daoud alayhi salam a dit, wa alana lil hadith, Allah ta'ala avait enseigné à Daoud alayhi salam la connaissance de, comment on appelle ça, de travailler le fer. De travailler le fer, et il pouvait faire des armures, pas des armures avec du métal, avec, comment on appelle ça, les émailles, hein, comme des gilets pressés avec des fils de fer, l'émail. Ça veut dire que c'était une technique de guerre qu'Allah ta'ala avait appris à Hazrat Daoud alayhi salam. Et regardez les techniques qu'Allah Ta'ala a donné Ikram à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de ses sahaba, avec des gens comme Khalid bin Walid. C'était le plus grand combattant, peut-être de toute l'histoire des guerres. Khalid bin Walid, si on avait le temps, on aurait expliqué comment Khalid bin Walid, il a organisé l'armée des musulmans, ceux qui sont à droite, restez à droite, un instant pris parti à gauche, ceux qui sont derrière, cette levée la poussière, pour que les gens ils croient qu'il y a des milliers de personnes derrière, alors qu'il n'y a que deux sables. Allez, Ajib, les stratégies qu'Allah Ta'ala a accordées au Prophète sallam par l'intermédiaire de Khalid bin Walid. Également par l'intermédiaire de Salman al-Farsi, lors de la bataille du fossé, Salman a appris à l'Al-Qua sallam quelle était leur habitude de creuser un fossé autour de la ville pour se protéger des ennemis. C'est-à-dire, comme Allah Ta'ala a enseigné une technique pour se défendre à Daoud al-Salam, Allah Ta'ala a enseigné beaucoup d'autres techniques à notre prophète Muhammad al-Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Sulayman alayhi salam, il dit que Allah Ta'ala m'a donné le contrôle du vent. Allah Ta'ala a donné le contrôle du vent, de la pluie, de la météo à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lors de la khutbatul Jum'a, un bédouin, il rend du haut prophète d'Allah, il n'y a plus de culture, les animaux meurent, la pluie d'eau, demande à Allah d'envoyer la pluie, la personne lève les mains, oh Allah, envoie la pluie tombe énormément. Une semaine après, ce badou, il revient du prophète d'Allah, nos sols sont inondés, nos récoltes sont inondées, demande à Allah d'arrêter la pluie, et Allah, le prophète dit, oh Allah, envoie cette pluie vers les endroits où il n'y a pas de personnes qui habitent, etc. Le prophète lève la main, Allah, il envoie la pluie. Le prophète lève la main, Allah Ta'ala arrête la pluie. Souleymane alayhi salam dit également qu'Allah Ta'ala m'a donné la possibilité de converser avec les oiseaux. Même si comme père, il pouvait parler aux oiseaux. Lors des hijras, lors de l'immigration vers Medina, Allah Ta'ala a ordonné à ses deux colons de faire le nid près de la grotte du prophète sallam. Allah Ta'ala a ordonné à ce Ankabut, cette araignée, de tisser sa toile. Les animaux également étaient au khidmat du prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Allez, on parle de conversation. Il parlait, parlait avec les oiseaux, une fois un bédouin, toujours un bédouin. Il y avait un prophète avec un bob. Vous avez vu quoi un bob? C'est comme un gros lézard, un iguane. Les Arabes, jusqu'à maintenant, ils mangent ça, il y a de l'indésir. Il amène ce bob auprès du prophète, il met le bob, il dit, oh Mohammed, ça c'était l'habitude des badous. Oh Mohammed, si tu es véridique, dis à ce bob d'attester que tu es Mohammed Rasulullah. Dis à ce lézard de parler, il dit que tu es Mohammed Rasulullah. Et le prophète parle avec ce bob en arabe français. Il parle avec ce bob en arabe et ce bob, il dit que j'atteste que tu es Mohammed Rasulullah. Ça c'est un mu'jiza. Les animaux étaient au khidmat du prophète, il a conversé avec les animaux comme Souleymane alayhi salam, conversé avec les oiseaux. Une fois le prophète voit un chameau qui allait malade. Et il va voir ce chameau, et le prophète sallam, il comprend ce chameau qui dit que son propriétaire abuse, lui donne trop de travail, et le prophète sallam va faire des reproches à son propriétaire. Dans tout cas que le prophète sallam, il avait la possibilité de communiquer avec ses animaux, comme Souleymane alayhi salam avait la possibilité de communiquer avec les oiseaux. Voyez? Mais par contre, ce que Souleymane alayhi salam a dit, quelque chose que notre prophète n'a pas eu, c'est le contrôle sur les djinns et les shayatins. Parce que ça, Souleymane alayhi salam avait demandé à Allah azza wa jalla que ses khususiyats munkar la yambaghi li ahadin min ba'di. Qu'Allah ta'ala lui donne ce pouvoir, ce royaume, cette possibilité de gouverner les shayatins, les ins, les shayatins et les djinns, et que personne après lui n'aura plus ce pouvoir. Donc ça, c'était ce qu'on appelle un khususiyat, une spécificité pour Hazrat Souleymane alayhi salam dont le doigt est accepté par Allah. Ensuite, Isa alayhi salam explique au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah ta'ala lui a donné la connaissance de la Torah et du Injil. Mais notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah ta'ala lui a donné la connaissance du Torah, du Injil, plus que le Coran qui lui a été révélé. Aucun prophète n'a eu la connaissance des trois livres révélés par Allah en même temps, sauf notre prophète Muhammad, Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et Isa alayhi salam explique qu'Allah ta'ala lui a donné la possibilité de guérir les gens qui étaient malades. Une fois dans une campagne, Qatada radiallahu anhu avait eu un fou et son œil était senti de son orbite notre professeur Salam, bi'idnillah, il prend l'œil de Hazrat Qatada, il le remet à cet endroit, et le professeur Salam a eu la possibilité de donner la santé, bi'idnillah, de faire ce genre de mu'ajizat, comme Isa alayhi salam a eu cette possibilité de la part d'Allah. Maintenant, le professeur Salam va expliquer à ses anbiya qu'est-ce que Allah lui a donné lui. Avant même que le prophète explique, on voit déjà que, je ne dis pas ex aequo, on voit déjà que le professeur Salam a eu autant de ni'amat que ses anbiya alayhi salatu wassalam. Et c'est maintenant que le prophète il commence. Il va expliquer, il dit Arsalani rahmatan lil alamin. Allah Ta'ala m'a envoyé comme une bénédiction, comme un rahmat pour l'humanité. Ce dîn, wallahi, c'est un dîn facile, c'est un dîn de paix. Avec cet islam pratiqué comme il le faut, toutes les personnes trouvent la quiétude tant de la vie quotidienne que de la vie intérieure, de la vie spirituelle. Et combien de maslas de rahmat il y a? Des maslas pour les gens qui sont malades, pour les gens qui sont faibles, maslas concernant les dames, concernant les enfants, des repos pour les hayawan, comment le Prophète a fait talerie pour respecter toutes les créations, toute la création, même les animaux, même ceux qui n'ont pas ni ami, toutes les makhlouq ont le droit dans ce dîn, dîn rahmat. Et Allah m'a envoyé pour la totalité de l'humanité. Alors que les Anbiya auparavant étaient envoyés pour une communauté, voire un village, voire certaines personnes particulières. Et Allah m'a donné le Coran, et dans ce Coran, il y a l'explication de toutes les choses. Non seulement ce qui concerne les ibadat, mais il y a akhlaq, il y a mu'ashara, il y a mu'amala. Il y a des choses qui sont découvertes maintenant, comme la création de l'homme, comment le fœtus se développe dans le ventre de l'enfant, la création des cieux, la création des terres, l'existence de cette couche terrestre. Alors que les géologues nous ont découvert il y a peut-être un siècle et demi, l'existence de sept cieux. Alors que pour les scientifiques, le ciel c'est une notion abstraite, il n'existe pas de ciel. Toutes les connaissances sont réunies dans le Coran. Wallah, on pourrait traiter chaque fois en 10-15 minutes, mais on va aller plus vite, inshallah. Et Allah fait de ma communauté la meilleure des communautés qui a été envoyée pour les gens. Et ça, c'est par quel travail? Par le travail des Anbiya, le même travail de Da'wah que l'Anbiya faisait. Chaque personne de la communauté a la même responsabilité, ce qui les distingue de toutes les autres communautés, de toutes les autres personnes auparavant. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait de ma communauté une communauté du juste milieu. Wallah, et comme on a dit, ça c'est une religion facile. Il n'y a aucune difficulté dans cette religion. Le Prophète a interdit de rendre la religion difficile, de faire des ahkams compliqués. Tout ce qu'il y a de cette religion est pratiquable pour n'importe quelle personne jusqu'au Qiyamah. Bien qu'on ait été envoyé en dernier, le jour de Qiyamah, Allah Ta'ala va faire ikram de cette communauté. C'est la première communauté qui va faire le hisab, la première communauté qui va passer sur le pont sirat, la première communauté qui va accéder au paradis, alors qu'ils sont arrivés sur ce dunya en dernier. Washara Ali Sadri, et Allah Azzawajal a ouvert ma poitrine. Et là, comme on avait déjà expliqué ça une fois, on va passer au point suivant. Alors que, parle de Cheikh Hassan, vous savez, vous vous souvenez que Moussa alayhi salam, il avait demandé à Allah Azza wa Jal lorsqu'il est parti voir Fir'aun, oh la Rabbi Shrahi Sadri, oh Allah, ouvre ma poitrine pour pouvoir communiquer avec Fir'aun, alors que Allah Azza wa Jal, il l'a déjà donné au Prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans qu'il ne le demande, donc Allah Mashrahi Sadri, Allah Ta'ala fait reconnaître au Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a ouvert sa poitrine, le Prophète, il a aidé la part d'Allah sans demander, alors que Moussa alayhi salam, de ce ayat, il demande à Allah de lui donner le tawfiq de l'ouvrir sa poitrine pour pouvoir faire ce travail. Et Allah Ta'ala a haussé ma renommée. Et ça, on avait expliqué aussi dans le tafsir comment notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, tant de le passé, on trouve le nom de notre prophète alayhi salatu wa sallam dans le Tawrat, dans l'Injil. On bashir en bi rasoul et ya'ti min ba'd ismuhu Ahmad. الذي يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل نوم نبوفة عليه الصلاة والسلام سابني إتي ديجا نوصي دل التوراة إذا الإنجيل سيتنا جامي تي أكوردي أخرى نبوفة jusqu'à maintenant. Quand vous regardez les livres des top 100 qu'on avait déjà expliqué, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la personnalité la plus connue et la plus respectée de l'humanité. Et jusqu'au Qiyamah, la seule personne qui intercédera le jour de Qiyamah pour la totalité de l'humanité, pour qu'Allah azza wa jal commence le hisab, ce sera le prophète alayhi sallam. Alors que Adam alayhi sallam refusera, Noah alayhi sallam refusera, Ibrahim alayhi sallam refusera, Moussa alayhi sallam refusera, et chacun de ces ambiyas, ils vont citer une erreur qu'ils ont accomplie dans ce dunya. à l'exception de Isa alayhi salam, qui lui ne refusera pas sans citer d'erreur, et puis c'est un prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va demander à Allah, après ses 40 années d'attente de Mahshar, de commencer le Hisab. Et Allah Ta'ala va enseigner à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam des noms sublimes qu'aucune autre personne ne connaît, et Allah Ta'ala va accepter son intercession pour que le Hisab commence. Notre prophète va amener sa communauté en premier sur le fond suivant. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la première personne de la création à accéder au Jannat. Le prophète va cogner à la porte du Jannat et le gardien du paradis va demander qui est, qui dit c'est moi, Mohammed. Il va ouvrir la porte et il dit que c'est uniquement pour toi qu'Allah Ta'ala va donner l'ordre d'ouvrir la porte du paradis. Tout ça, c'est la supériorité de notre prophète alayhi salatu wassalam, surtout ses anbiya alayhi salatu wassalam. On continue. Septième phrase. Là, ça va aller plus vite, Inch'Allah. Ça, c'était le morceau le plus long. 5 minutes, Inch'Allah. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va converser avec les anbiya alayhi salatu wassalam. Il va avoir une conversation concernant ashwaq al-sa'a, concernant les signes de qiyamah. Alors, ils vont demander, on va faire tout en français. Ibrahim alayhi salam va dire que je n'ai pas de connaissance de ça. Moussa alayhi salam va dire que je ne connais rien concernant les signes de qiyamah. Et ils vont demander à Hazrat Isa alayhi salam. Et Isa alayhi salam va dire quelques phrases. Que concernant l'heure de qiyamah, personne n'a pas Allah ne connaît. Ce que Allah m'a enseigné, ce que j'ai comme connaissance, c'est que Dajjal viendra un jour, et lorsque Dajjal va me voir, il fondrait tellement il a peur de moi. Et Allah Ta'ala va donner la mort à Dajjal grâce à moi. Et tellement la création va aider les musulmans, que même les pierres diront aux musulmans, derrière moi il y a ton ennemi qui se cache, viens voir ton ennemi. Et ensuite les gens vont retourner chez eux, et arriver chez eux après le décès de Dajjal. Il y aura Ya'juj et Ma'juj qui seront déjà là, ils viendront de tous les endroits, ils vont détruire, ils vont boire des fleuves, ils vont détruire tout ce qu'il y a, hein, comme Makhloukat. Et les gens vont me demander, oh Isa, alayhissalam, demande à Allah de me débarrasser de ces créatures, je vais faire droit à Allah, et Allah va détruire ces créatures, et ensuite la terre sera remplie de leurs cadavres.